Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je reçois David Links pour son magnifique nouvel album Be My Guest. Bonjour David.
Bonjour Anne.
J'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour te présenter parce que bon, je sais que tu l'as déjà fait de nombreuses fois, de raconter un petit peu le contexte, ce qui a précédé, qui tu es aujourd'hui. Mais c'est quand même toujours intéressant, je trouve, en tout cas sur So Sweet Planet, j'aime bien savoir de où les gens viennent. Donc si tu veux bien, j'aimerais qu'on puisse dire quelques mots de ton parcours, de ce qui a pu amener à l'homme et à l'artiste que tu es aujourd'hui et qui peut offrir cet album. Quelques mots, c'est presque impossible tant ton parcours est dense et riche et le nombre de personnalités que tu as croisées avec lesquelles tu as travaillé est juste incroyable. Donc je citerai juste quelques noms. Miles Davis, Kenny Clarke, Maria
João.
Claude Nougaro, Morane, pour montrer la palette très éclectique. Paolo Fresu, que j'adore. Nathalie Dessay, André Ceccarelli, Caetano Veloso, et la liste est très 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 longue.
Et... Caetano, je n'ai pas travaillé avec lui. Ah oui, Croisé.
Oui, parce que...
On se connaît, hein, Caetano.
Et Toni Morrison et James Baldwin. Donc finalement, ça fait beaucoup de gens que tu as croisés qui ont enrichi, je pense, aussi ton parcours, même si tu n'as pas forcément collaboré musicalement, bien qu'on va y revenir, tu as collaboré avec James Baldwin musicalement. Ouais. Donc, cette liste très, très, très longue. Et puis, il y a tous tes invités exceptionnels sur cet album, des très connus, des moins connus, comme les reprises. Donc, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es né en Belgique, ton père était connu déjà dans le monde du jazz. C'était quoi le contexte de départ?
Mon père... Mais j'aime bien, ces dernières années, j'ai réfléchi beaucoup à mon père, qui venait d'une famille assez pauvre. J'aime bien quand Dave Chappelle dit « il ne faut pas mélanger pauvre et être fauché ». Pauvreté, c'est un état d'esprit, être fauché, c'est une situation. En tout cas, il venait d'une famille ils étaient neuf gosses, donc en général, on allait à l'usine à 9-10 ans, à partir de 10 ans pour essayer de contribuer à la famille, parce que mes grands-parents, ils étaient paysans, mon grand-père travaillait à l'usine, et mon père jouait la trompette dans la fanfare, et à 6, 7 ou 8 ans, on le mettait tous les dimanches sur la table du café du coin, avec une casquette, il jouait la trompette, et il récoltait plus d'argent que son père à l'usine pendant une semaine ou deux semaines. Donc, ses frères et sœurs se sont mobilisés pour qu'il puisse pour qu'un enfant n'aille quand même pas à l'usine. Et alors, ils les ont convaincus. Il est devenu, au fur et à mesure, il était premier trompettiste de l'Orchestre National de la Belgique, à 15 ans. Il a reçu une bourse pour étudier à Paris, etc. Et voilà. De fil en aiguille, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est lui qui a aussi été important dans la rencontre de Ram Blake avec Gene Lee.
Mais au début, la trompette, ce n'était pas du jazz. Au tout début, quand il jouait, qu'il jouait comme
répertoire? Il a aussi joué avec Brel un peu, mais pas longtemps, dans l'orchestre de Brel. Il a joué du jazz aussi. Il a joué du jazz dans les années 50, dans les casinos à la mer belge, à la côte belge. La mer du Nord. Et voilà, il est devenu producteur à la radio, ça s'appelait le BRT, ça c'est flamand, Belgische Radio en Télévisie, RTB c'est Radio-Télévision Belge, donc tout est toujours comme aujourd'hui encore.
Oui.
Donc il a fondé un festival qui s'appelle Jazz Midlame à Anvers. Mais mon père était, C'était quelqu'un extrêmement passionné. C'est un compositeur aussi. J'ai fait mon disque plus tard avec James Baldwin. Mais lui, en 69, j'aime bien raconter ça, il a fait un disque en fait, qui s'appelle Ndessé ou Blues, et qui était sur le texte de Lepo Sangor, en fait. Et il allait gagner le prix d'Italia avec ça.
Léopold Senghor, mais il était donc déjà lui-même sensible à toute cette
J'ai trouvé le premier livre de Baldwin à 10 ans dans la bibliothèque de mon père.
Ah oui, c'est vrai. C'était déjà là.
Et c'était en flamand, mais j'étais attiré par la couverture.
La couverture
qui était brillante comme ça, avec un vert pomme, et puis il y avait le profil de James Baldwin. C'est comme ça. Et en flamand, j'ai lu ça en flamand. Je crois que c'est Go Tell It on the Mountain. Et puis voilà. Donc le parcours il est long. Il faut me bombarder des questions parce que sinon ça va être long.
Ça va pas être tout le podcast parce que je sais que tu as déjà raconté, mais il y a quelques éléments que j'aimerais quand même qu'on puisse ancrer dans ce podcast-ci. Par exemple, tes premiers souvenirs d'émotions musicales.
Des fortes émotions musicales, c'était pas de mes souvenirs, mais que mon père raconte, que quand il y avait toujours des sculpteurs, des peintres, des chorégraphes à la maison, ça durait jusque dans les petites heures du matin. Mais mon père, il aimait bien montrer à ses amis, quand j'avais 3-4 ans, il mettait Sketches of Spain de Miles Davis, par exemple. Et moi, je jouais avec mes voitures, je ne sais pas quoi. Et puis, quand il mettait Sketches of Spain, moi, je me raidissais, je ne bougeais plus.
Tu figeais ?
Je figeais. Donc, chaque fois, il dit « Regarde mon fils ». C'était un peu ça. Et ça, c'était donc ma première forte expérience, Miles Davis. C'est Alban Berg aussi, apparemment, il me faisait ça, le compositeur contemporain. Et il y avait... Et aussi la voix de Ray Charles, il avait un enregistrement pirate de Ray Charles jouant les pins dans les années 60. Très lent de Georgia My Mind, une des plus belles versions. Il y avait ça, il y avait ces trois. Donc moi je voulais être ça. Je ne savais pas ce que c'était parce que je n'avais pas de vocabulaire. Mais je me rappelle que je voulais être ça. Donc moi c'était être Miles Davis. Être Richard, que j'ai rencontré par après.
Et oui.
J'ai rencontré Miles Davis chez James Baldwin. Oui. J'ai rencontré Richard en tournée aussi. Il chantait la veille ou sur un festival où je devais chanter. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi chez James Baldwin.
Oui.
Donc je voulais être ça. Avant de pouvoir dire le mot chanter, je voulais être ça. J'étais persuadé que Miles Davis c'était une voix. Et en plus, on n'est pas très éloigné du fait que c'était une voix. C'est une voix parce qu'il a perdu sa voix dans les années 50. Il a eu une opération sur la corde vocale. Il ne pouvait pas parler. Il a gueulé dans une répétition de musiciens. Il a perdu la voix. Et j'ai l'impression que tout passe par la trompette. Les gens ont tendance à oublier. Aujourd'hui, on a tellement adopté le style de jeu de Miles Davis avec la sourdine feutrée qu'on oublie qu'avant Miles, il n'y avait pas de gens qui faisaient ça. C'est le premier trompettiste... Sur la musique duquel on faisait des dîners romantiques à la limite, on met Miles Davis, une bougie avant ça, même aussi grand que les trompettistes étaient, c'était un peu des clairons, je veux dire c'était un peu c'était la vitesse, c'était aussi magnifique que c'était, mais Miles a romantisé, il a intériorisé le rôle de la trompette et c'est devenu une extension de la voix qu'il a perdue, quoi. C'était sa voix. Et moi, donc, la plus grande... Aujourd'hui, quand on me pose la question à certains intervieweurs, quand on m'interviewe, qui est votre chanteur préféré, je commence toujours par Miles Davis, parce que pour moi, c'était une voix. J'avais l'impression de... Je voulais que ma voix soit la trompette de Miles Davis. Je me rappelle de ça quand j'étais petit. C'était ma référence de comment tenir une note. Pas finir en vibrato, comme beaucoup de vocalistes finissent leurs notes en vibrato, et quand on leur demande pourquoi, ah je sais pas, mais Miles m'a appris avec do, et c'est moi qui finis la note, c'est pas le vibrato qui va finir ma note. Et si je vibre, ce sera ma décision, mais ce sera pas le vibrato qui est mon patron.
D'accord.
C'est moi qui est le maître de la vibration de ma voix.
Dans les premiers souvenirs d'émotions musicales, est-ce que tu peux nous donner aussi un concert, un instrument, une personnalité, un disque.
Un concert que j'ai, auquel j'ai assisté, qui a changé ma vie.
Oui.
Il y en a eu avant, mais j'avais 12 ans au festival que mon père a organisé. Il y avait Betty Carter. Et le disque, on peut trouver ce répertoire sur disque. Ce disque, c'est The Audience with Betty Carter, Live at Great American Music Hall in San Francisco, 1977. Et une raison, c'est parce que Betty Carter, c'est la première vocaliste pour moi dans le jazz qui s'est éloignée du scat et qui est devenue, qui improvisait. Qui n'était pas dans l'imitation d'un instrument, mais qui a improvisé comme un vocaliste. Le scat est né de par l'imitation des instruments. Grâce à Ella Fitzgerald, ça fait le tour du monde et elle a mis la base pour qu'on puisse. C'est grâce à Ella Fitzgerald que Betty Carter a amené le scat vers l'improvisation vocale. Ella Fitzgerald, qui a été une grande influence pour moi aussi. Scoop, scoop, adouli, abou, badou, lidi, dibou, bou. Betty Carter l'a amené vers. Dou, la, la, badou, lidou, mididi. Tu vois, donc, c'est plus. Quand on amène la voix. Là, on. Naturellement, il y a la notion des accords aussi. Et donc, moi, c'est l'année 77 en général, parce qu'il y a Ella Fitzgerald, Life in Europe. Life à Montreux. Avec le Tommy Flanagan Trio. Betty Carter, the audience with Betty Carter. Mais c'est le concert que j'ai vu qui m'a fait une baffe, qui m'a donné une baffe. Parce que grâce à elle, j'ai pu apprendre à chanter les ballades plus lent que n'importe qui. Et les morceaux vite, plus vite que n'importe qui. Parce qu'elle a. Elle fonctionnait rythmiquement libre sur le tempo. Les gens mélangent beaucoup le rythme et le tempo. Le tempo, c'est la pulsation, Quentin. Et le rythme, c'est tout là, tout là, tout là. Tu vois, c'est les branches et les feuilles. Et le tempo, c'est le tronc et les racines. Et elle, par exemple, quand il y a un orage, les branches, ils vont se tendre, par exemple, à droite quand le vent vient de gauche. Mm-hmm. Et même si c'est très, très fort, ça reste lié au tronc. Et aux racines. Il ne faut pas non plus que ce soit un ouragan, sinon ça se déterre. Mais voilà. Mais dans l'image, c'est là que le rythme puisse fonctionner dans le même corps indépendamment sur le tempo. Et c'est là où j'ai eu une grande baffe parce que j'étais jeune et j'avais déjà travaillé tous les 10 à la Fitzgerald live à la maison. Je chantais 5-6 heures par jour et j'avais une voix de gosse, donc je chantais aussi qu'elle.
Donc, et t'avais quel âge, là ?
6, 7, 8 ans, j'étais obsédé. Donc je voulais être Ella Fitzgerald, que j'ai rencontrée plus tard. Ça, c'est une belle rencontre. Et quand j'ai vu Ella Fitzgerald, quand j'ai vu Betty Carter, j'ai dit, OK, là, si je veux devenir chanteur, je ne serai jamais content si je n'arrive pas à faire ça. Donc c'était vraiment... La barre était très haute. Et plus tard, quand Ella Fitzgerald est venue en 79 chanter sur la Grand Place à Bruxelles, que j'ai fait 15 fois depuis, donc chaque fois au public, j'ai dit j'ai dit à la maison, je vais aller rencontrer Ella Fitzgerald. Ils se sont foutus un peu de ma gueule. Donc je suis allé, j'avais 14 ans, je suis allé à la Grand Place et j'ai franchi la sécurité, j'ai couru dans les coulisses, je me suis arrivé dans sa loge. La sécurité m'a couru derrière et elle a, je sais pas de pourquoi, elle a dit non, laisse-le, il est bien ici. Donc j'ai passé l'après-midi avec Ella Fitzgerald et juste toucher sa main, être avec elle, c'était pour moi une façon de... C'est comme un an au conservatoire, je suppose. Ou plus même, ça marque à vie. Ouais. Mais Betty Carter, c'est le concert. Mais c'est aussi le disque, parce que le disque, il est toujours là. C'est le même répertoire, mais moi j'ai vu le concert à Anvers, c'est le disque de San Francisco, c'est le même répertoire. Donc j'invite les gens à écouter ça parce que pour moi c'est la bible de ce qu'un chanteur de jazz devrait faire. Il n'y a pas une blue note dedans, il n'y a pas un. Il n'y a aucun vibrato. Ça va au centre de la nécessité. Un disque, We Want Miles. En 81, quand Miles est ressorti de sa retraite après 6 ans, 7 ans de ne pas avoir joué, on sent que la technique est encore un peu faible. Mais c'est un disque qui est phénoménal parce que pour moi, ça lie tout ce qu'il a fait avant à tout ce qui allait venir. Et quand c'est sorti, c'était... Pff, j'ai vu ça en concert aussi. Mm-hmm. Mais ça, c'est le disque. Et puis, avec quoi ? Concert, disque ?
Alors, un concert, un instrument, une personnalité, un disque.
Un instrument ?
Ah oui, un instrument.
Un instrument, moi... Mais il faut que j'en donne plusieurs parce que moi, quelqu'un qui m'a très fort marqué c'est, pour ma voix, c'est Michael Brecker, mm-hmm. saxophoniste, Piazzolla, bandoneon, Miles, on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que la nécessité, le son, la nécessité. Par exemple, Michael Brecker peut faire là où, où Miles fait 5 notes, Michael Brecker, on peut en faire 500, mais aucune note est de trop. Parce que parfois on dit qu'il faut faire peu de notes. Lui, il pouvait faire 500 à 200 à l'heure, mais c'était chaque note, on l'entendait. Donc l'articulation pour moi était le son, la continuité dans le son mm-hmm. qui fait qu'on entendait l'articulation de chaque note. Donc ça racontait une histoire, ça racontait une urgence, mais très paisible. J'aime bien comme James Baldwin, qu'il était dans l'urgence, mais on peut que communiquer l'urgence quand elle est très paisible, quand elle est ancrée. Voilà, pas nécessairement paisible tous les jours, mais ancrée. Donc on peut aller étudier d'où vient cet ancrage. Donc ça nous fait réfléchir quand on entend une urgence qui est ancrée. Donc ça c'est un peu les instruments Piazzolla aussi. J'ai des histoires avec Piazzolla aussi, donc je ne vais pas raconter. Et puis, le quatrième, c'était quoi ?
Alors, on avait un concert, un instrument, une personnalité, un disque.
Le disque, j'ai dit, hein, c'était Betty Carter. Oui. Ma personnalité, j'ai habité chez James Baldwin. James Baldwin, c'est une mission. J'ai découvert le livre dans... Et puis, c'est devenu une mission. J'ai fait mes travaux sur James Baldwin à l'école. Je lui ai écrit des lettres.
Ah oui, avant de le rencontrer ?
Ah oui, à l'école. Et j'ai écrit des lettres qu'on a retrouvées après sa mort, parce que j'habitais
oui,
avec lui à Saint-Paul-de-Vence.
J'ai lu ou entendu ça, oui, que vous aviez retrouvé des lettres que tu lui avais écrites.
Oui, et qu'il n'a jamais répondu, parce qu'il était... Voilà, je ne sais même pas s'il les avait lues, mais on les a retrouvées après. Et donc c'est une mission, quelque part. Tu vois, je suis allé habiter chez Kenny Clarke. Mon parrain, c'est Nathan Davis. Mon deuxième nom, c'est Nathan, parce que c'est mon parrain, mm-hmm. qui a joué avec Art Blake et qui m'a amené chez Kenny Clarke, en fait, à Paris, parce que je partais parfois avec lui en tournée. Et puis, j'ai rencontré Baldwin après, mais ça, si les gens sont intéressés, ils n'ont qu'à faire des recherches, parce qu'il y a mm-hmm. beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que quand j'habitais chez Kenny Clarke à Paris, j'ai passé du temps parce que je partais aussi à Bruxelles, j'allais à l'école à Amsterdam, conservatoire. Puis j'habitais chez Baldwin. Et quand j'ai décidé de faire disque avec Baldwin, c'était sur un coup de tête. J'essayais de boire avec lui, j'étais à Saint-Paul-de-Vence sur la terrasse avec lui. J'ai fait ça une fois, plus jamais. Mais quand même, cet état d'ébriété a fait que j'ai osé dire à Baldwin, j'ai dit on fait un disque et lui il a dit oui.
C'était grâce à ça quand même.
Mais écoute, oui, j'ai osé, mais on est jeune donc on ose beaucoup plus aussi, sans alcool. Hein, donc il a dit oui et puis je me rappelle, il avait mis un disque de Robert Johnson, ça passait. Et puis il a commencé à chanter Precious Lord, le gospel, que j'ai demandé, tu vas chanter ça sur le disque ? Ok, donc voilà. Le reste, c'est l'histoire. Et puis, et en fait, il m'a raconté, c'est ça qui est fou. Parce que lui, je crois qu'il était aussi fasciné, parce qu'il connaissait mon parrain, Nathan Davis, qui était à la tête du African American Ethnology Department de l'Université de Pittsburgh, mm-hmm. où Baldwin faisait des conférences, invité par lui. Et j'habitais chez Kenny Clarke. Kenny Clarke, il me disait, faisait entrer Baldwin dans les clubs de jazz à Harlem quand Baldwin était mineur. Donc ils étaient amis à Harlem. Mais Kenny Clarke ne m'avait jamais dit ça. Et Baldwin ne m'avait jamais dit ça non plus. Jusqu'à un certain moment. Donc le plateau des rencontres...
Ah oui, c'est étonnant.
Il m'a regardé un peu. Who are you?
Oui.
Who are you? Et donc... tu vois, et parfois j'allais de Kenny à Paris, qui habitait à Montreuil, prenant le train pour aller à Saint-Paul-de-Vence chez Baldwin. Tu vois, donc c'était fou. Et parfois Nathan appelait... Nathan Davis appelait Saint-Paul-de-Vence parce qu'il était en train d'écrire un opéra sur Just Above My Head, Harlem Quartet de Baldwin. Mm-hmm. Un jour, il appelait, c'est moi qui répondais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, donc Donc c'était et c'est pas l'un qui a introduit à l'autre. C'était un, j'étais sur une mission.
Oui,
quoi.
Oui,
c'était vraiment drôle. Une mission oui. qui c'est quelque chose qui devait se faire, qui a vraiment guidé ma vie, mais à laquelle je ne suis pas soumise. Il y a plein de gens qui connaissent mon travail, qui connaissent pas mon lien avec Baldune. Donc tant mieux, j'ai une voix, c'est ma voix.
Tu fais bien de préserver ça, parce que au moins tu es reconnu pour le chemin que tu as tracé, pour
oui,
toi, pour ton
tout
pas,
à fait.
Pas pour. Et tu as souvent dit que vouloir devenir un chanteur de jazz blanc, ce n'était pas choisir la facilité.
Mais
pourquoi tu as choisi cette voie? Quand même, bon, je pense que du coup, on l'a un peu compris avec ce que tu viens d'expliquer.
C'est la voix qui m'a choisi, je suppose.
Oui, avec un parcours qui te faisait sentir peut-être plus que d'autres que ça allait être difficile. Parce que justement, tu étais déjà dans la culture noire américaine. Tu savais peut-être plus que d'autres que ça allait être difficile.
D'abord c'est vrai que j'ai grandi dans une éducation afro-américaine en étant blanc. J'ai jamais essayé de jouer le blanc qui veut. Voilà, on connaît l'histoire.
Oui.
Parce que parfois le vrai racisme est là-dedans.
Oui, aussi.
Surtout.
Oui.
Et donc, I'm white. That's okay. Et c'est pas seulement chanteur de jazz blanc. C'est pas ça. C'est le fait que maintenant, je le dis dans les masterclass, j'ai eu 57 ans, donc je m'en fous si ça sonne arrogant ou pas, ou prétentieux, mais c'est une réalité. C'est qu'il y avait des chanteuses européennes et musiciens européens de jazz depuis 1930. Des chanteurs de jazz en vue, il n'y en avait pas. Moi, je n'avais pas d'exemple européen. Ça n'existait pas. Mais je devais construire ça. Et j'étais batteur aussi. J'accompagnais le grand chanteur de jazz américain, Mark Murphy, quand il venait en Europe. Donc ça, c'était
en tant que batteur ?
Oui. Et ça, c'était les meilleurs cours de chant que j'ai eu quand j'avais 15-16 ans, avec Diederik déjà au piano. Moi, quand j'avais 15-16-17 ans...
Diederik, de longue date, oui, hein, collaboration de longue date, et qui est aussi sur ton nouvel album.
Oui, il sera toujours partout. Donc j'avais un trio avec Hein van de Geyne à la basse. Et moi, j'organisais... Quand tu savais qui venait dans le Benelux, Harry Sweet Edison, Ernie Wilkins, Mark Murphy, Toots Thielemans, Richard Boone, plein de gens d'autres. Et moi, j'organisais les concerts dans les clubs et voilà, et je jouais à la batterie. Mais c'est vrai que je voulais devenir chanteur de jazz, mais on sait très bien dans l'humanité et dans l'histoire, quand il y a un statu quo, pourquoi le changer? Je veux dire, il faut bousculer les choses. C'est au rôle de l'artiste. To disturb the peace, c'est ce que Baldwin disait. Donc, si un truc n'existe pas, le statu quo n'a pas envie. Pourquoi est-ce que ça devrait exister? Puisque ça n'existe pas, on est bien sans. Donc, c'est vrai que j'étais. Quand je dis blanc, c'est juste pour accentuer la différence, le truc de l'exotisme américain, blanc et homme. Ce qui est un peu un autre métier que quand on est femme chanteur. Parce que les chanteuses de jazz, c'est comme. Voilà. Un homme,
d'ailleurs,
est-ce que ça chante ?
On dit les chanteuses de jazz, voilà. Et c'est vrai que même s'il y en a quelques-uns maintenant, mais le jazz vocal, c'est les chanteuses.
C'est les chanteuses. Donc, c'était une place à prendre, c'était une place à conquérir, c'était moi d'être à la hauteur de ce que j'attendais de moi. Ça, c'est la vraie préoccupation de ma légitimité pour moi, c'est d'être à la hauteur de ce que j'attends de moi. Donc, le chemin était long, mais... C'est ça la vie. Pas... Quand quelqu'un me dit oui, mais c'est long, c'est dur. Ben oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle la vie.
Oui.
Parce que c'est long
oui.
Et c'est pas nécessairement dur. C'est...
Oui, oui.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc ça m'a pris 10 ans au moins pour créer une référence pour que les gens me voient.
Oui.
Et dans ces 10 ans, c'est l'adversité. Et encore, ça reste parce que quand tu es européen chanteur, c'est. Mais non, les Américains. Voilà. Donc j'ai dû. In retrospect, j'ai compris que habiter chez Baldwin et Kenny Clarke a inventé la batterie bebop. Tu vois, Baldwin a inventé, s'est inventé lui-même. Donc, ça m'a donné une colonne vertébrale et une résistance de. Parce que j'ai grandi non seulement avec des deux personnes légendaires, mais qui ont été tellement critiquées. Et de voir les gens marcher droit malgré le fait. Miles Davis a été l'artiste le plus critiqué dans l'histoire du jazz. Il ne sait pas jouer, il ne fait plus de jazz. Les musiciens disaient qu'il... Donc, et c'est le mec qui reste
Oui, c'est dans l'histoire. C'est important de le rappeler, de rappeler ses parcours humains, parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus des personnalités mythiques, tous là.
Baldwin...
Mais sur le moment, qu'est-ce qu'ils ont pris, quoi, hein.
Moi, j'ai habité chez Baldwin, où je voyais ce qu'il lisait sur lui dans les journaux, et c'était pas tendre. Après les Civil Rights Movement, après les meurtres de Malcolm X, Martin Luther King, Kennedy, c'était genre... Ah, il est vieux, il est amer, il ne sait plus écrire, il faut laisser la place aux jeunes. Et maintenant, l'œuvre de sa dernière période de sa vie est vue comme la plus importante. À l'époque où il le faisait, on le critiquait, on disait il est fini. Moi, j'ai 57 ans. Je vois... Mais c'est aussi stimulant quand on est artiste, si on veut artiste dans le sens que, qu'on ne court pas les rues en disant je suis artiste, mais qu'on l'est et qu'on n'en parle pas et qu'on fait. Moi, je suis à un âge, à 57 ans, où on vit quand même dans un monde de jeunisme qui vient aussi dans le jazz maintenant. On aurait bien envie de me mettre de côté. C'est à moi de montrer que j'ai encore quelque chose à raconter. Oui. Donc ça me resserre les boulons et me regarde, et que je vais au plus profond. Donc à la limite, c'est extrêmement, l'adversité peut être extrêmement stimulante. Et j'ai vu chez eux aussi... Ok, on n'était pas dans, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, mais j'ai aussi vu chez eux que c'était des gens. En anglais, on dit alone. Ils n'étaient pas lonely. Mais je ne sais pas en français, il y a deux mots en anglais.
Solitaire.
Ils étaient solitaires, mais pas seuls.
Mais pas seuls. Voilà.
Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Solitaire, mais pas seul. Je voyais, j'étais chez des gens dont le téléphone ne sonnait pas pendant 2-3 jours. Tu vois, c'était OK, tout ça. Aujourd'hui, on ne nous appelle pas pendant une journée, on est au fond du lit, on est mal.
Il y a des gens, et c'est même si on n'appelle pas pendant une demi-heure, c'est le... Et la présence sur les réseaux, et le...
Mais ça m'a donné... cette colonne vertébrale m'a donné... m'a fait comprendre qu'il faut un alphabet, il faut un vocabulaire, et puis... espérant qu'on a une histoire à raconter. Et ça, c'était extrêmement clair, tout ça. C'était clair, c'était pas gagné. Rien n'a gagné, rien n'a jamais acquis jusqu'à aujourd'hui. Et ça, maintenant, on a aussi... Quand j'ai fait mon disque avec Baldwin, il y avait Steve Coleman, Slide Hampton, tout Stillemans, il y avait plein de gens dessus. J'avais 19 ans, je portais le monde, je ne pouvais pas regarder l'arrière parce que j'étais trop jeune pour avoir de l'expérience pour faire ce projet, mais je l'ai quand même fait. Maintenant, à 57 ans, on peut regarder un peu en arrière, et même si on est préoccupé, j'ai fait des choses, donc je vois que j'ai quelque chose à raconter. Donc c'était...
Un disque que l'on peut, enfin en tout cas en CD, que l'on peut toujours trouver, hein, puisque moi-même je l'ai commandé et j'ai le coffret avec le... Il y a un très gros livret dedans.
Oui, c'est moi qui a voulu faire...
C'est bien, parce que c'est vrai qu'avec l'album... Enfin, moi j'étais frustrée de ne pas avoir le vinyle, et du coup ça donne quand même un bel objet, quoi.
Oui, j'ai fait 3 chapitres, j'ai fait les poèmes du disque, qui n'était pas édité. Je l'ai fait traduire par Hubert Nissen, qui était le patron de...
Actes Sud.
Oui, qui avait déjà traduit Jimmy's Blues.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié aussi tous ces liens-là.
Et dans ce livret, j'ai mis premier chapitre les poèmes du disque. Deuxième chapitre, Hubert Nissen m'a cédé les droits pour mettre Jimmy's Blues. Et en troisième chapitre, j'ai mis une nouvelle... que Baldwin avait écrit pour mon 21e anniversaire, qui s'appelle Gypsy, et que j'ai fait traduire aussi. Donc je voulais vraiment que les gens puissent, parce que c'est tellement bien traduit en français, la poésie, je ne sais pas comment ils ont fait. Donc ça m'a donné quand même, un socle un peu, duquel je pouvais affronter l'adversité. Parce que l'adversité est presque nécessaire pour qu'un artiste peaufine la nécessité de son discours. Je veux dire, si on ne se confond pas à la société, ben alors on est dans la sensiblerie très vite ou dans un pseudo-artiste.
Oui, il n'y a pas la même profondeur. L'adversité,
c'est quelque chose qui réveille qui...
Et oui. Alors, dans la petite vidéo de présentation de cet album... Alors, attends, non, je crois que j'en ai... Non, oui, il y a quand même une dernière question par rapport au parcours. À quel moment tu sais que tu veux en faire ton activité principale? Parce que tu étais tellement dedans, en fait, que... Est-ce que c'était évident que ça allait être une activité professionnelle
L'adversité était telle que c'était une évidence. l'adversité, le fait de, que, par exemple, moi, avant de faire un disque avec Baldwin,
oui.
quand je retournais parfois à Bruxelles, je testais comme ça un peu, genre, ah oui, je vais faire un disque avec James Baldwin. Mm. Les gens, ils me dismissed. Quand tu dismisses quelqu'un, c'est, bah, comment tu es fou. Je veux dire, c'était... Il me congédiait comme congédié. Il me congédiait comme mais tu. Donc je voyais à quel point quelque chose que j'allais faire
oui.
était vu comme il est fou. Et c'était la même chose avec le statut de chanteur
mais
de jazz.
Mais fou dans le sens qu'il ne te croyait pas.
Ah, mais il croyait pas. Et quand tu es chanteur de jazz, la légitimité, elle devait venir d'office de moi parce qu'il n'y avait pas de référence européenne d'un chanteur de jazz masculin.
Oui.
Donc ça fait la tâche qui m'attendait, mais ça ne m'effrayait pas parce que...
Oui, j'étais... c'était un objet non identifié que tu proposais.
C'était quelque chose dont j'étais déjà convaincu. Donc,
objet discographique non identifié.
Oui, mais j'étais convaincu parce que puisque j'allais faire un disque avec Baldwin, j'avais la preuve que j'avais la même non-croyance ou la non des gens. Donc j'avais intérêt à être convaincu
oui,
moi-même.
Oui, oui.
Mais j'avais aussi tellement de joie. La joie de prendre une note. Et quand on l'a, et surtout en concert, quand on voit que les gens... Ah, that's the note. Tu vois, quand tout converge, c'est quelque chose de... C'est là où on a son rôle. C'est là où on a son rôle. Et j'avais grandi avec des gens dont c'était le rôle. Donc tu ne mets plus en question... Oui, tu mets en question ce rôle, mais non, tu ne mets plus... la légitimité en rôle, en cause, tu t'accapares de ce rôle que tu dois, c'est un rôle que tu dois faire. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas de doute. On est criblé de doutes, heureusement, parce que c'est un moteur aussi. C'est grâce au doute qu'on va vers une vague réponse à une forte question, une question profonde. Mais c'était quand j'ai dit que c'était évident, ça ne veut pas dire que c'était facile. Ah non.
Oui, oui.
Ah non.
Et oui, parce que je me disais, mais t'étais pas intimidée, parce que t'étais quand même très jeune. Il y avait des immenses jazzmen qui passaient dans cette maison à Saint-Paul-de-Vence sans arrêt. Il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit, mais dans quoi je me suis lancée? Est-ce que t'étais convaincue tout le temps?
Oui, j'étais pas. À nouveau, oui. Ça n'empêche pas le doute.
Oui.
Mais that's what I was going to do.
Oui.
C'était une mission très, très claire pour moi. Et puisque c'était tellement pas clair pour les autres, il fallait que ça soit d'autant plus clair pour
oui,
moi.
Oui, c'est certainement.
Mais c'est ça. Et Baldwin, en fait, c'est la même chose. Il n'a pas fait l'université et tout ça. Ça devait être clair pour lui qu'il allait écrire parce que personne n'y croit. Ça a été tellement difficile pour lui aussi. Donc c'était pour moi, la clarté était mon trophée.
Oui, oui.
À moi.
Une évidence.
C'est une évidence parce que pour les autres, ça ne l'était tellement pas.
Et oui.
Que moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était pas... Donc, ce qui m'a stimulé, c'était... Pour moi, c'était tellement évident que je ne comprenais pas pourquoi c'était pas évident pour les autres. Donc, c'était pour moi le début du chemin pour clarifier
oui.
ce que j'avais à dire.
Oui.
Parce que je sentais que c'était en moi. Donc, il faut que je clarifie ça parce que sinon, je ne suis d'aucun intérêt.
Oui, puis sinon, on étouffe notre...
Oui.
Enfin, si l'environnement prend le dessus à ce moment-là, quand tu peux douter, parce que rien ne répond dans l'environnement, et en fait, à ce moment-là, soit tu te laisses bouffer par l'environnement, soit tu te traces, quoi.
Oui, mais c'était...
Toi, t'as tracé.
C'était aussi très clair que la musique, pour moi, c'était... Par exemple, je jouais aussi la batterie.
Oui.
Pour moi, c'était clair que dans le chant, j'avais ma place. J'ai jamais fait la musique pour la musique, j'avais fait la musique pour raconter quelque chose
oui.
qui était plus haut que la musique.
C'est ça.
Et oui. la musique était le
vecteur.
Le vecteur pour raconter ce oui. que j'avais à raconter. Il fallait naturellement être à la hauteur musicalement pour raconter ce. Parce que. Et c'est surtout dans le jazz.
Mm. Oui, c'était quand même des gros challenges, quoi.
Oui, mais quand je regarde dans l'air maintenant, oui.
Oui.
Mais quand on est jeune, on a cette espèce de autoprotection
oui.
qu'on peut appeler l'arrogance juvénile, je sais pas quoi. Mais mm-hmm. Moi, quand j'avais un obstacle, je sautais par-dessus et c'était bon. Quand quelqu'un écrivait quelque chose de mauvais sur moi, c'était bah bon, il ne voit pas ce que je suis en train... Je veux dire, c'était pas que j'étais arrogant, mais c'était genre... Pour moi, c'était tellement clair que et ces protections d'arrogance juvénile, comme j'aime appeler, c'est aussi quelque chose qu'il faut délaisser à partir de 30-35 ans, parce que sinon on devient débile.
Voilà. Il faut évoluer un petit peu, voilà,
après
ça, ça nuance.
Après ça, quand il y a un obstacle, eh ben, il faut l'affronter et l'analyser, et voilà. Et, mais moi je me rappelle un des premiers disques que j'ai fait avec Diederik Wissels, je suis toujours très fier de ce disque. Mais les premières réactions, c'était quelque chose qui... Tu vois, ce n'était pas des standards, c'était nos compositions, c'était quelque chose... Ben, la presse le dit maintenant, ou que c'était quelque chose de nouveau dans le jazz vocal. On proposait quelque chose de différent, on n'est jamais nouveau. Hein. Mmh. La nouveauté, la perception de la nouveauté, c'est un agencement différent des éléments existants. Faut dire,
c'est qui, bien formulé.
Voilà, qui, grâce à l'histoire, devient clair. Donc, mais voilà, c'était vu comme une nouvelle proposition dans le jazz vocal. Et moi, j'étais... à part après, mais les premiers disques qu'on a fait, c'était, j'avais déjà fait le disque avec Baldwin. Mm-hmm. Donc je mettais mes pierres dans différents endroits pour jusqu'au moment où ça devient un petit mur qu'on peut regarder, qu'on peut définir comme mur, pas comme obstacle, comme mur.
Oui.
Mais je me rappelle du premier disque Kamouk avec Diederik. Kamouk, c'est le titre de nouvelle d'un livre d'Alice Walker, une nouvelle, et en fait c'est une femme, le personnage, et moi j'ai pris le mot Kamouk, que j'en ai fait un Indien, Native American. J'ai raconté l'histoire de Kamouk. Tu vois, j'en ai fait un homme. Mm-hmm. C'est des noms comme ça qui n'ont pas de genre. Genre.
Oui.
C'est ça, gender. Oui. Mm-hmm. Et je me rappelle quand le disque est sorti, ben, dans le même magazine de jazz, maintenant j'en ris. Je ne sais pas si j'en riais, mais il y avait 3 chroniques sur le disque de différents journalistes, et tous les 3 descendaient en flèche les disques, ou en finalité je ne savais pas chanter, je ne savais pas écrire, je ne savais pas composer. C'était vraiment, mais j'étais tellement convaincu, et Diederik aussi, que c'était presque fascinant de waouh, ok. Donc il se met quelque chose en route, que si tu veux faire ça, ben, il faut clarifier ton propos pour que les gens reçoivent quelque chose, tu vois. Et puis en 95 ça a été le boom avec Up Close. C'est un disque qu'on a fait en 3 jours, en 2 jours. J'avais pas de firme de disque. Un studio à Bruxelles, ils ont fait un nouveau studio. On dit, ah, tu veux pas venir enregistrer pour essayer le studio, et comme ça, si tu as les bandes, tu peux faire quelque chose. Donc c'est un disque qu'on a fait 3 jours. Le premier jour, rien ne marchait parce que tout était mal câblé, c'était un nouveau studio. Donc oui, on fait ça en 2 jours.
Vous avez spillé les plâtres.
Et soudain, ce disque est devenu, en Europe, bam. Et j'ai pas vraiment compris, parce que tu es tellement habitué à ce que les gens... à être convaincu de ce que tu fais, parce que les gens ne le voient pas, ou quand ils le voient, tu sais quoi, que quand tu as eu cette unanimité à ce moment-là de cette apparence vocale, c'était plus important pour moi. J'ai naturellement heureux de ça, mais j'étais
plaisir.
Plutôt étonné. Mais j'étais déjà prêt à vivre...
Oui, tu avais accepté l'adversité.
L'adversité, et aussi que tout ce qui vient comme couronnement, ou les prix qu'on gagne, c'est toujours chouette. Mais les prix, on m'a demandé récemment, parce que j'en ai eu tellement de prix, et on me dit, est-ce que c'est important un prix ? Je dis, écoute, c'est important dans le moment. Parce qu'on vit tellement... Tu vois, le composer, c'est un truc solitaire. Et puis on est sur scène, et puis on sait... Oui, on lit les articles, mais on ne sait pas vraiment où ça va. On voit que quand le public est là, le prix, ce que ça fait, c'est que dans le moment, on dit « Ah, ils ont remarqué le disque ». Tu vois ce que je veux dire, c'est,
oui, il y a une reconnaissance.
J'aurais jamais
validée,
cru que ce disque-là serait vu ou récompensé. Et puis, ça n'a pas de passé, ça n'a pas de futur, ce prix-là. C'est un truc dans le moment, et puis quand ils sont beaux et assez lourds, tu peux mettre dans ton armoire, et tu ça peut être pour mettre des livres entre.
Ah oui.
Comment on appelle ça?
Oui,
book holders,
on
dit.
Oui,
book holders.
Je sais pas comment on appelle. Oui, pour caler les livres.
Pour caler les livres. Oui. Et quand ils sont beaux, mais ça.
Oui.
Ça, mais pour,
ça a d'allure.
Et naturellement, je suis très reconnaissant parce que ça c'est une petite Mais ça n'a pas de passé, ça n'a pas de futur. Tu ne fais rien avec ça. C'est juste. Ces prix ne servent à rien si tu... Je veux dire, on est déjà détaché de ça en général quand on les reçoit. Donc c'est un petit cadeau qui est vraiment... Ah, c'est chouette, tu vois.
C'est comme du luxe, quoi.
C'est comme du luxe, oui, et oui, puis oui, si on n'a pas ça, ma musique existera aussi, voilà.
C'est plus d'avoir un prix ou pas qui va t'arrêter, non. On a bien compris.
Non, c'est clair. Ah, non, là, ça va.
Alors, dans la petite vidéo de présentation de cet album que l'on peut voir sur YouTube...
Qui s'appelle Be My Guest.
Be My Guest. Et tu dis que ce projet a vu le jour en 2011-2012, suite à une volonté de tout revoir en toi, la voix, la direction artistique et musicale...
Morale, tout. Oui, la vie...
Mais ça fait longtemps, ça. Ça fait 10 ans.
Oui, il y a, dans le disque que j'ai fait avec James Baldwin, il y a A Lover's Question Part 1, Part 2,
oui.
Avec une introduction.
Oui.
Puis il y a lui chante Precious Lord, puis il y a un morceau gospel qu'on a fait avec une chorale. Moi j'ai chanté la chorale, Deborah Brown a chanté. Et puis il y a une trilogie de Inventory on Being 52. Inventory on Being 52, Part 1, Part 2, Part 3. Et les inventaires, soit si on ne le fait pas de temps en inventaire, si on n'a pas cette clairvoyance, regarder dans le miroir et faire un inventaire un peu, il faut que je me regarde un peu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, où est-ce que je vais, c'est l'inventaire qui s'impose à soi. Et en général, c'est en forme de maladie ou en forme de bagarre ou de divorce, des trucs comme ça. Je ne dis pas nécessairement que c'est sous cette forme-là, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on est un peu clair avec soi, c'est pour continuer la vie en étant un peu clair dans sa tête. Il faut revoir les choses. Et moi, c'était... je voulais faire un bilan un peu inventaire, c'est ça, bilan. Un bilan de où est ma voix? C'est quoi ma voix aujourd'hui? Où est mon cœur? Où est la morale dans une société qui est de moins en moins morale?
Les valeurs.
Oui.
Les...
Où sont mes valeurs? Parce que je ne veux même pas juger les autres. Je peux que me juger, ou me peser, ou me regarder sous un angle différent. Et puisque le chant et la composition et tout ça est un peu mon domaine ou ma façon de m'exprimer, j'ai décidé de faire ça en forme de duo, de un à un, pas de duo, comme des duos vocaux, non, juste un artiste un à un. Et j'ai profité des gens c'est magnifique de pouvoir travailler avec quelqu'un qui t'a influencé depuis que tu es petit et qui est fan de toi aussi. Tu vois ce que je dis? Je dis, waouh! Tu vois, quand Caetano Veloso dit que j'adore, moi j'adore Caetano, quand
aussi.
Tu entends dire que c'est un fan, que c'est un, quand quelqu'un me dit, ah, puis Caetano c'est un fan, je dis quoi? Donc pour moi c'est le petit garçon qui...
Oui, je comprends, oui.
Donc il y a des gens comme ça dans le disque, j'ai pas besoin de ça, mais je voulais en faire beaucoup plus. Mais genre,
ah oui, parce que là il y en a quand même
15.
15, oui, c'est ça.
Il y en a 15. Et moi je voulais... L'idée, tu sais, les idées sont beaucoup plus ambitieuses, mais il faut ça. J'en voulais 50 pour mon 50e anniversaire.
Là, c'est un coffret, c'est plus un album.
Non, mais ça allait être un coffret. Mais,
ah oui.
Mais c'est déjà... Moi, j'ai tout autoproduit. Donc, j'ai fait ce projet en faisant mes autres disques.
Oui, c'est ça, parce que donc, sur 10 ans... Je crois qu'il y a eu des moments de doute où
j'ai arrêté parce qu'avant, un disque, c'est une démarche d'avancement sur moi. C'est comme tourner à l'école. Et là, les 15... Donc, chaque artiste, l'idée est que moi, je chante ce qu'eux, ils ont décidé ce que je vais chanter. C'est un peu leur choix.
Oui, tu les as laissés libres de...
Je voulais qu'eux, en théorie, mais ce n'est pas toujours le cas, j'ai décidé aussi, mais qu'eux décident du morceau que j'allais faire. Donc, si Nuenley est venu avec une composition sur laquelle j'écris des paroles, par exemple...
Tous les noms, oui. on peut les dire d'ailleurs,
oui.
Pour donner à nos auditrices et auditeurs le...
Mais on peut commencer avec le premier. Le premier, c'est Letter to Trevor. Trevor Baldwin.
Oui,
c'est...
parce que là, on va bien faire le lien avec ce qui a précédé, je crois.
Ouais. C'est un des neveux de Baldwin, que c'est le fils d'un des frères.
Et là, il y a une belle histoire aussi,
oui.
Par rapport à ce texte.
Quand j'étais à New York pour enregistrer quelque chose, j'ai appelé Trevor. On était au bar un verre, j'ai dit écoute, ben viens au studio, parce qu'il écrit très bien, il écrit des articles, il est magnifique. Écoute, viens avec un texte, viens avec quelque chose, on l'enregistre et moi, puisque ce sera du haut, je mettrai, je sais pas ce que je vais faire derrière. Donc, et il est venu en studio avec une lettre que James Baldwin lui a écrite 3 mois après sa naissance, la naissance de Trevor, pour s'excuser pour son retard de ne pas avoir été là pour sa naissance. Donc c'est une approche très philosophique de la vie en disant si tu veux faire partie de cette famille, ben, tu vas devoir t'habituer au retard de plein de gens parce que tout le monde est en retard, commençant par ta grand-mère, donc la mère de Baldwin, que j'ai d'ailleurs bien connue aussi, Burdis. Donc c'est magnifique. Donc quand il est venu avec ça, j'étais un peu pourquoi il n'a pas écrit quelque chose, lui ? Tu vois, c'était parce que... parce que je ne voulais pas que les gens me connectent à nouveau à Baldwin en disant « Ah, il prend Baldwin », tu vois ce que je veux dire. Mais en finalité, je suis très fier d'avoir à nouveau fait quelque chose. C'est le texte de Baldwin, j'ai fait la musique, donc c'est un petit clin d'œil au disque qu'on a fait. Donc,
c'est une belle boucle. Hein.
Oui, c'est une belle boucle. Oui. Et il a lu ce texte, sa voix est très très belle. Et puis, une nuit, je suis descendu au studio et je me suis mis au piano. J'ai fait le piano derrière et puis j'ai chanté les quatre voix. Et c'est un peu comme un hymne, un hymne, pas un hymne en français, mais un hymne comme à l'église. Tu vois,
oui, c'est étonnant parce que c'est très en retrait au début, puis ça...
Et ça monte.
Oui, ouais. Voilà. Et finalement, ça rejoint sa voix.
Oui, et c'est très gospel sans vouloir être gospel. Tu vois, c'est très habité. Et j'ai fait ça la nuit au studio. En n'étant pas sûr, j'ai demandé à l'ingé son, tu aimes bien ça ? Il m'a regardé comme si j'étais fou. Genre, tu vas quand même pas me demander si j'aime bien. Of course, j'aime bien ça. Tu vois, c'était un peu... Donc, tu vois, mais j'ai pas besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre pour me rassurer. C'est pour avoir un écho, tu vois. Même si elle aurait dit non, j'aurais continué. C'est pas ça, tu vois. Mais j'aime bien provoquer un peu les gens pour les forcer à avoir une opinion. Donc ça, c'était très, 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 très... J'étais très content de commencer l'album avec une voix qui n'est pas la mienne.
Oui.
Et j'ai...
Oui, déjà, je trouve que ça, c'est bien à ton image, je trouve, cet album. Parce que, je sais pas, c'est pas qu'on se connaisse tellement. On se connaît un petit peu, on s'est connus un petit peu avant et en dehors d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a cette humilité, il y a cette grande ouverture, il y a cette grande richesse multiculturelle, il y a toute cette grande richesse... spirituel, au sens, je précise toujours, j'emploie de plus en plus souvent ce mot dans le podcast, mais c'est pas en termes de religion, c'est en termes d'élever les esprits. La musique peut élever, enfin moi en tout cas.
On vit dans une époque où on en a de plus en plus besoin, parce que la musique est devenue comme une monnaie d'échange ou un truc à la bourse, quoi. C'est devenu un outil pour réussir ou pour écraser l'autre et devenir une star.
Voilà.
C'est devenu, on voit plus que ça aujourd'hui. Et ça commence à venir dans le jazz aussi. C'est cette espèce de... J'ai rien contre la compétition, mais ça dépend à quoi elle sert, cette compétition. Si elle sert à se dépasser soi-même, c'est... Waouh, c'est magnifique, parce que c'est victorieux de faire quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire.
Oui, c'est ce qu'on ressent très fortement, très puissamment, je trouve, en écoutant ton album. C'est qu'on sent cette profondeur, même si le mot est peut-être un peu galvaudé, mais enfin, pour moi, c'est quand même celui qui correspond le mieux. En tout cas... Quand je l'ai écouté, je voulais revenir là-dessus, c'est que je ne sais plus, enfin on était dans les périodes Covid, là, dont on a eu du mal à sortir, je ne sais pas si on en est sorti, mais en tout cas, ça commençait à me décourager un peu, toutes ces contraintes et toutes les difficultés qui étaient liées à ça. Et c'est un jour, en tout cas, où je n'avais pas trop le moral. J'étais un peu découragée et j'étais un peu dans la négativité, une espèce de truc poisseux, là, quand on a un peu le cafard et que c'est lourd et que tout ça... Et là, ce jour-là, j'ai mis l'album sur mes grandes enceintes et je l'ai vraiment écouté. Et je crois que je t'ai envoyé un SMS dans la foulée, d'ailleurs, ce jour-là. Parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment marqué, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, c'est que ça m'a élevé. J'ai écouté cet album et ça m'a, pour le dire très simplement, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire que je suis bien rentrée dedans, j'ai écouté la musique, j'ai écouté ta voix, j'ai écouté cet univers qui, de titre en titre, m'a beaucoup surprise parce qu'il y a une variété d'univers, une densité, et puis on passe d'un monde à l'autre, en passant d'un titre à l'autre, on va en reparler. Et ça, cette richesse-là, cette diversité, puisque c'est un mot, je trouve, qui est crucial aujourd'hui, autant pour la biodiversité que pour la diversité des êtres humains et la diversité culturelle. Revenons à cette richesse qu'est la diversité. Et dans cet album, moi, tout ça, ça m'a fait du bien, donc pour le dire simplement. Mais quand je dis fait du bien, je trouve que c'est très précieux parce qu'on est à une époque... où ça devient difficile, je trouve, de trouver des choses. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses formatées et qu'il faut aller chercher. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en dehors des circuits formatés, mais c'est vrai que ça demande un effort d'aller les trouver d'aller mais les
c'est,
chercher.
C'est, et c'est, là, c'est aussi une habitude. C'est une habitude.
Précieux, oui. Oui. C'est vrai.
C'est aussi une habitude. Voilà. De, moi, j'ai toujours eu... À nouveau, Baldwin, Kenny Clark, ils sont avec ce qu'on apprend de la tradition. Il faut utiliser ça pour aller à contresens. C'est comme ça qu'on est visible si on a quelque chose à dire. Et c'est là aussi où on se rend compte où on a quelque chose à dire.
Mais étant vraiment soi-même, moi c'est ça qui m'a touchée, comme chez eux. C'est que tu as des gens qui veulent être un contresens, mais pour faire un peu de l'exercice de style. Ouais. Quoi. C'est un peu fabriqué, c'est un peu pour dire je suis un contresens. Non, là, vous êtes dans des... c'est juste être vous-même. Du coup, ça se trouve à ne pas être dans la masse. Mais...
Oui, tout à fait. J'en ai... Je suis un peu las.
Oui, là.
Là de... Pour les Anglais, c'est avec un S. Là de... d'entendre ce jazz vocal qui est... J'ai l'impression que je suis dans un bar d'hôtel. Il n'y a rien de plus... la solitude d'être dans un bar d'hôtel, pour moi j'adore tourner, mais un bar d'hôtel, pour moi, il y a rien de plus, ça représente rien de plus que la solitude et le cafard. Et puis j'en ai marre de ce jazz vocal. Je dis pas que ça peut pas exister, mais quand il y a plus que ça qu'on met, et que ça remue plus rien, parce que le jazz vocal c'est comme du papier peint sonore, quoi. Ça remue plus rien aujourd'hui, en tout cas ce jazz vocal qu'on veut promouvoir, cette espèce de truc. On peut être dans la salle et on sort, on baille, on est content, ah c'était chouette, voilà, et puis on rentre à la maison, on mange une pizza surgelée avec un Coca Light, et puis la ville de... on essaie de faire de la vie un long fleuve tranquille, en sachant que quelque part on se ment tout ce temps-là. Donc pour moi c'est d'abord important pour moi. Hein. J'essaie de convaincre personne. Je fais d'abord les choses pour moi. C'est pas égoïste et narcissique. C'est que si c'est clair pour moi, ça peut être. Ce n'est que à ce moment-là que ça peut être clair pour quelqu'un d'autre. Et je peux espérer, si moi j'aime, je peux espérer que quelqu'un d'autre puisse aimer. Mais si quelqu'un n'aime pas, ça ne m'empêcherait pas d'être content de ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait d'abord pour être sûr que ce soit mon expression. Donc voilà, il y a eu... et c'est vrai que j'ai fait ce disque en continuant mes autres disques. Donc ça a été un cheminement avant d'être un projet. Je savais que j'allais le sortir. Entre-temps, j'ai sorti 7 ou 8 disques. Mais pour moi, j'ai fait une pause aussi en 2015-2016 parce que j'autoproduis toujours mes disques. Donc je n'ai pas nécessairement besoin pour quelqu'un qui me dit « Refais ta voix, ce n'est pas bien. » Je suis assez... dur avec moi-même, je sais quand c'est bon pour moi, ou quand c'est assez bon pour que je peux laisser aller la chose. Et j'ai fait une pause en 2015-2016 parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur du projet, parce que c'était chaque fois, c'est comme un examen quand tu es avec un autre artiste, c'est un autre univers, et tu dois être toi aussi. Donc c'était un peu confus émotionnellement, donc j'ai mis ça de côté.
J'ai lu ça, mais tu ne pensais pas abandonner ?
Non. Je me sentais un peu lâche d'abandonner un truc. Non, de ne pas affronter un challenge.
Oui,
ce n'est pas moi. Je ne
peux
pas faire ça. Donc, j'aurais un peu honte. Mais j'avais deux autres disques à faire. J'étais sur la route. Parce qu'il y avait Tigrane Amasayan, avec qui j'ai fait un des duos, qui m'a dit « Alors, David, ça sort quand ?» J'écoute Tigrane, je ne sais pas. Non, il faut... Voilà, j'avais même pas fait de backup, j'avais juste un disque dur, j'avais même pas sauvé sur un autre disque dur, donc j'aurais pu perdre tout ça. Et un jour, j'ai appelé mon ingé son qui est venu à la maison, et il fallait que je trie ça et que je me confronte à ça. Et j'écoutais, oh, c'est bien, ah, j'étais super content. Et là, j'ai continué, et j'ai fait des disques, tout ça, mais le disque qui m'a vraiment donné la déclencheur pour finaliser et le rendre en projet, c'était ma signature chez Crystal Records, mais c'est mon disque Skin in the Game, qui pour moi était un nouveau chapitre. J'ai l'impression d'avoir abordé quelque chose de nouveau. Skin in the Game, c'était mon disque précédent chez Crystal. En tout cas, entre-temps, j'en ai eu 15, j'avais 30 noms. Donc j'ai fait Hunter, c'est avec Or Solomon, c'est un pianiste israélien que j'avais découvert sur Facebook.
Et ah oui ?
Oui, j'avais vu des trucs de piano solo dans une cave à Paris. C'était tellement incroyable ce qu'il faisait, je ne connaissais pas. Donc j'ai contacté, apparemment il habitait à Paris. Donc. Et lui, il a choisi un morceau de Hunter de Björk.
De Björk, oui.
Moi, j'aurais jamais pensé chanter un morceau de Björk. J'adore cet artiste, mais c'est voilà. Donc il a réarrangé. Donc c'était moi j'ai produit aussi les voix, tous les trucs. Donc c'est devenu un autre. C'est devenu à ma sauce, quoi, tu vois.
C'est tout un univers. Et vous avez fait un clip. On va parler des clips un peu
oui.
après.
Oui. Puis il y a Pagina d'Or. C'est Hamilton du Hollande. C'est un des plus grands caves. De mandoline, joueur de mandoline brésilien, légendaire, qui peut jouer à une vitesse, et je fais des morceaux parfois, des choros très très vite avec lui.
Mais c'est tellement beau ce
mais
titre.
Oui, mais j'espérais qu'il ne choisisse pas un morceau vite, acrobatique, comme on oui, peut oui, faire, on oui, me connaît, oui, je oui, peux oui. faire des trucs à du 300 à l'heure. Et il a pris une balade méconnue de Pixinguí, c'est un peu l'inventeur du choro brésilien, un truc du début du XXe siècle, et la version originale, on entend le chanteur brésilien, mais qui a presque encore un accent portugais, du Portugal presque. On prononçait le brésilien différemment. Mmh.
Mais c'est drôle que tu dises méconnu, parce que moi, quand je l'ai entendu, j'avais l'impression de connaître ce titre, cette mélodie.
Ah, c'est possible. Moi, je ne connaissais pas.
Bon, et non, si tu ne connaissais pas, méconnu. Je ne pense pas que je le connaisse.
Donc j'étais très content de ça, et puis il y a plein de titres, est-ce qu'on doit vraiment parler de chaque truc
Peut-être pas de chaque, mais quand même en dire encore quelques-uns avec les personnalités.
Choisis-toi peut-être, parce qu'il y a tellement d'histoires à chaque titre.
En fait, ils sont tous intéressants, parce que justement ils sont tous différents, quoi.
Ah oui.
Après on a Magic Malik.
Et pour moi, c'était très intéressant, des trucs, si moi je suis pas le style... Parce qu'il y a plein d'artistes différents, il y a plein de styles différents, mais si moi je ne suis pas la ligne rouge, ça veut dire que je n'ai rien à faire dans ce métier. Voilà. Si la voix n'est pas moi, ce n'était pas pour moi ça le challenge, parce que j'étais convaincu de ça. Pas par arrogance, mais voilà, après 40 ans, je ne sais pas cuisiner très bien, il y a plein de choses que je ne sais pas bien faire, mais chanter, je sais chanter, et puis on aime ou on n'aime pas, donc je n'avais pas de doute. Là-dessus, mais apparemment, les gens ont besoin d'être convaincus, parce que tu n'as pas peur de te disperser. Mais on ne se disperse pas parce que c'est moi. Comment est-ce que je peux me disperser si c'est moi? Donc la même chose avec les différentes langues que je chante.
Celui-ci, là, j'aimerais bien que tu nous envoies, avec cette personne-là. Là.
Tonight you belong to me.
Oui, avec ce clip aussi tellement mignon, et puis du coup j'ai fait une recherche sur elle parce que je la connaissais pas, donc comment tu l'as rencontrée?
Elle est pas connue, mais je l'ai rencontrée à Seattle. Moi j'étais à Philadelphie, je chantais avec l'orchestre symphonique de Philadelphie, puis j'avais des concerts à Seattle, Portland, je sais pas où encore, et à Seattle j'ai fait un concert, c'était d'abord en 2011, et il y avait cette fille qui est venue voir après le concert. Elle était dans ma loge, elle a chanté un peu.
Elle, c'est le ukulélé, non?
La fille, oui. Elle joue ukulélé, d'ailleurs.
C'est ça, hein, oui.
Mais elle est venue chanter et sa voix est tellement belle.
Mais oui.
Elle est super belle et très posée. C'est une fille indienne d'Inde, de l'Inde, qui a été adoptée aux États-Unis. Elle me raconte toute son histoire aussi d'insécurité, parce que je ne sais pas si l'adoption s'est si bien passée, tu vois. Mais quand elle chante, il y a une telle largeur d'émotion, c'est tellement apaisant, sa voix. Et elle ne l'est pas nécessairement pour elle-même, mais quand elle chante, elle l'est, quoi, tu vois. Et donc, il y a toute cette histoire d'où elle vient, tout le truc. Et puis, quelques années plus tard, quand je chantais à vous aux États-Unis, je suis repassé par Seattle. Et là, je l'ai demandé sur scène de venir chanter avec moi. Je crois que c'est ce morceau-là qu'on a cherché, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être ça. Oui, avec son ukulélé. Et puis, le lendemain, je vais partir très tôt, début de l'après-midi, pour chanter, je ne sais pas, à Los Angeles ou à Portland, je ne sais pas. Et j'écoute, et j'ai réservé un studio le lendemain matin. J'écoute, on va enregistrer ce morceau. Parce que j'étais déjà dans la dynamique du duo.
Oui,
donc,
oui.
Ça pouvait être des artistes connus, mais aussi pas connus. Donc, on était, tu vois, à Seattle, il pleut beaucoup. C'est très chouette, cette ville. Mais pour moi, c'est la ville de Nirvana, quoi, tu vois, le groupe Nirvana. Pour moi,
le grunge.
Le grunge, tout ça. Et donc, on était allé en studio, on a fait ça. Et puis, je suis parti, et puis... Et puis voilà, donc ça c'est l'histoire de ces titres. Il y a d'autres titres, mais Mais voilà, je vous invite à écouter, comme ça, si je vous explique tout, les auditeurs, vous n'allez pas être curieux, alors peut-être.
Non, mais moi, j'ai été curieuse, en tout cas, en écoutant l'album, à force de l'écouter, en regardant les noms, en regardant si c'était des reprises.
C'est un travail d'auditeur à faire aussi, c'est ça qui est
voilà.
Bien.
Et après, il y a une curiosité quand même, on a envie, du coup, d'en savoir plus, de...
Et alors aussi, j'ai demandé à 15 vidéastes artistes. Au début, je ne savais pas si j'allais en connaître.
Mais oui, parce que tu as aussi invité des artistes d'autres formes artistiques que la musique et tu leur as proposé des choses.
Mais c'est une idée qui est venue en cours de route. Mm-hmm. Et je voulais, il y a 15 duos, je voulais 15 illustrations. Donc, j'ai donné carte blanche, j'ai dit, écoute, je n'ai pas d'argent. Vous avez carte blanche, comme ça vous avez un titre à moi inédit et peut-être ça peut vous servir pour la promotion, tout le truc. Tout le monde a été séduit. Je me suis dit au début, mais comment est-ce que je vais arriver à 15? Et puis, soudain, j'étais à 15. J'ai un copain, un peintre que j'ai rencontré chez Paolo Freire, un Colombien qui faisait de l'aquarelle. C'est pas encore sorti, ça. On sort. Une vidéo tous les 3 semaines. Donc le disque est sorti le 19 novembre et tous les 3 semaines, donc ça va durer jusqu'au août. Donc tous les 3 semaines, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc il y a chaque morceau a sa vidéo. Et justement, pour le titre avec ukulélé, il y a un bar à vin. Ça a changé de propriétaire, mais l'ancien propriétaire, c'est un jeune homme, très ambitieux dans le vin, tout ça.
À Paris ?
Oui, en bas de chez moi. Et de temps en temps, je vais là et en général, je dis pas, tu sais, aujourd'hui, on reconnaît pas nécessairement les musiciens de jazz comme il y a 15 ans, c'était différent. Et donc, je dis, mais au fur et à mesure, ils savent qui je suis. Donc du coup, ils font des recherches et du coup, ils me disent, c'est toi qui chantes ça. Donc du coup, je suis pas quelqu'un qui va dire, je suis chanteur, écoute ma musique. Oui. Donc, il y a des liens qui se créent comme ça et lui, avec 2-3 amis, ils ont fait ce clip.
Vous êtes dans la petite barque, là, un petit essai de l'animation, en fait.
L'animation.
Et moi, j'adore ce petit...
C'est
je l'ai partagé déjà sur Facebook. Je l'ai trouvé trop mignon.
C'est mignon, ouais.
Et ça colle bien, je trouve, à l'univers de cette chanson.
Oui, tout à fait. Et ils ont fait ça. Et c'est des gens qui travaillent ensemble dans ce bar à vin, mais qui font du graphisme, qui font bien un truc. Et je leur ai dit, écoute, moi je fais un disque avec des duos, est-ce que tu veux illustrer une chanson? Et je savais même pas ce qu'ils allaient faire. De personne d'ailleurs. Je voulais pas intervenir. Ça, c'était... Et il y a même certaines vidéos dans lesquelles j'apparais et j'avais pas envie. Mais ok, mais c'est à nouveau l'artiste invité qui décide. Donc David, j'aimerais bien que... Donc, dans les quelques vidéos où j'apparais, c'est ma première extension. Oh, vraiment, j'ai pas envie, quoi. Mais je me suis laissé diriger. Donc, il y a certaines vidéos, c'est eux qui m'ont dirigé. Donc, c'est un peu un projet à moi que j'ai donné aux autres. Et pour avoir leur vision sur moi, en fait. Ce disque, c'est les choix des morceaux. Chaque artiste, c'est sa vision qu'il a de moi. C'est aussi un truc aussi politique dans le sens que je veux aussi montrer que j'avais envie... aussi que les gens qui me connaissent, je ne parle pas de ceux qui ne me connaissent pas, ont une certaine idée de moi. Et je voulais aussi montrer que le style, c'est nous. Ce n'est pas en dehors de nous. Donc, je peux faire un morceau assez free avec Marc Ducret ou Ram Blake. Je peux chanter un morceau de Randy Newman qui est assez mainstream, mais ce sera toujours moi. Qu'on a une large palette stylistique sans en ne pas perdant son style personnel. Je veux dire, l'expression est extrêmement personnelle et moi j'ai grandi dans des palettes complètement différentes où je peux faire un truc complètement free et je peux aussi chanter comme Morane par exemple qui était une de mes grandes amies, mais je peux faire un duo avec elle. Il y a aucune différence pour moi. Chanter un piano avec un big band, c'est pas différent parce que le rythme c'est moi. C'est moi le rythme. Je ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour avoir mon univers rythmique. Et rythmique, c'est le phrasé. Le rythme, c'est le phrasé. Où je place le mot, c'est ma décision. Ce n'est pas un arrangeur, un compositeur qui va décider. C'est moi qui décide ce que je veux faire avec le morceau. Même chose avec les langues. Il n'y a pas une langue qui swing plus que d'autres. J'habite en France, je donne des masterclass. Il y a beaucoup de gens qui aiment dire « Oui, je chante en anglais parce qu'il y a plus de consonnes en français, donc ça ne swing pas. » Je dis non. Tu swings ou tu ne swings pas. Donc, quand je chante en espagnol, quand je chante, c'est je swing ou je ne swing pas. À condition, naturellement, il y a des différences de culture, mais il ne faut pas voir les différences, il ne faut pas voir des fossés là où il y a des ponts. Je veux dire, voyons d'abord ce qui nous rassemble. Et puis, naturellement, une valse musette, c'est parisien, une bossa nova, c'est assez... Mais celui qui chante, c'est celui qui chante.
Et alors, tu dis aussi, justement, dans cette petite vidéo, que dans cette période, tu as aussi réfléchi à la place qu'a un artiste dans le monde, un artiste politique. Est-ce que tu peux nous partager un peu de ces réflexions qui t'ont animé sur la place d'un artiste politique ?
Ben, être politique, c'est simplement être de son époque et réfléchir à qui on est dans, où, qui on est dans ce monde.
Quelques mots pour revenir au clip quand même, du clip aussi avec Hamilton de Holanda.
De Holanda, oui. En brésilien, on dit...
Il est beau ce clip aussi.
Hamilton de Holanda. Ah oui, ça c'est qui a fait, Matthew Wilson, avec qui j'avais travaillé. Ah oui, il a fait un documentaire sur André Ceccarelli dans lequel j'ai parlé d'André. Et oui, lui aussi, il a fait un travail de dingue. Ça, c'est... Donc c'était avec des marionnettes, comme ça. Il a mis Hamilton en marionnette et moi en marionnette. Et il a, pour moi, il a recréé Rio de l'époque où le morceau a été écrit. Je vois un Rio de 1920 sans avoir connu Rio de Janeiro en 1920. Mais le truc derrière, là, c'est... Il y a une espèce de truc... On a l'impression de rendre hommage à Rio de...
Ah oui, c'est vraiment très beau, je trouve.
Oui, je suis très, très content de
tout
ça.
Tout cet univers. Alors, dans la présentation de cet album, toujours, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup plu. Tu dis, ce projet est venu à moi très naturellement, tel un inventaire qui se réclame, un peu comme si je retournais à l'école. Il est un hommage à la transmission, à l'esprit de curiosité indissociable et indispensable à cet apprentissage par soi-même. Ces duos sont une façon de continuer à évoluer encore et encore et me rappellent ma jeunesse lorsque je me ruais sur tout ce que je ne connaissais pas avec une curiosité qui est toujours intacte. À une époque où dans les lieux d'enseignement artistique, les méthodes peuvent paraître prépondérantes sans remettre en cause les contenus qui y sont enseignés, il me semble important de préserver et de développer, pour contrebalancer, la curiosité et le questionnement de l'artiste. C'est une façon de maintenir en vie cette flamme autodidacte qui illumine et brûle de l'intérieur, pour simplement être ou devenir le témoin et le reflet de son époque. Alors comment préserver et développer la curiosité et le questionnement de l'artiste ?
Mais ça se fait par une obstination qui peut passer pour de l'arrogance, mais qui finalement protège l'humilité. Comme Toni Morrison, elle a dit que tout le monde, pas seulement les artistes, devraient avoir un lieu en eux. Et moi, je le vois, cette chambre, bien que dans notre corps, on n'a pas de place pour ça, mais je la vois, qui est pristine, qui est... clair, qui est propre pas au sens hygiénique, mais qui est et où personne ne peut entrer, ni ton amant, ni ta femme, ni ton homme, personne, ni tes enfants. Et c'est un endroit duquel tu opères et où personne ne peut entrer, mettre les pieds, sans y être invité. Et même si on y est invité, les invités vont pas y venir parce qu'ils sentent que l'invitation n'est pas vraiment une invitation pour accéder à l'endroit, mais pour dire t'as pas besoin d'y accéder parce qu'il faut le trouver en toi, cet endroit aussi. Mais il y a obstination parce que si on peut pas être le témoin de son époque, à quoi... Et c'est pas une grande mission, hein, ça devrait être un acte quotidien qu'on devrait transmettre à nos enfants. Ça devrait être une habitude. Si on peut pas être le témoin de son époque, alors qu'est-ce qu'on est ? On est esclave de tous les outils. Internet n'est pas le problème. Les réseaux sociaux ne sont pas le problème, c'est nous, c'est le rapport qu'on a avec ça. Je veux dire, moi je ne suis pas contre l'évolution, mais si on ne gère pas l'évolution, ça devient des monstres qui détruisent la nature, qui polluent. Voilà. C'est nous qui
qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
Oui, qu'est-ce qu'on en fait. Et moi je trouve qu'on est dans une période extrêmement dangereuse, parce que l'arrogance de notre civilisation... Cette arrogance, ce positionnement d'être aveugle à regarder ce qui est beau en face, si on arrive à ce point-là, il n'y a que les actes individuels qui peuvent. Je veux dire, moi, si je ne le fais pas pour moi, je ne peux pas le faire pour toi. Et ça, c'est... Et ma survie mentale, ma survie physique est moins importante que ma survie mentale. Tant que je suis là, je vais être sûr que je suis en possession de mes moyens d'expression. Et pour moi, s'il y a un mot qui est important, il y avait un concert qui est important, un livre qui est important, un concert, un disque. C'est un mot qui est important, c'est la résilience. Et la résilience, elle vient pas comme ça. C'est pas juste une façade d'attitude. C'est une distillation quand on distille. Et la résilience, c'est le produit, c'est le résultat de. Ça peut que devenir une attitude quand elle vient de quelque chose d'un questionnement assez continu, quoi. Un truc qui n'arrête pas et qui ne peut que se faire dans une humilité, même si les autres gens le voient comme arrogance. Parce que percevoir quelque chose comme l'arrogance montre l'insécurité de la personne qui croit que c'est de l'arrogance. Donc moi, je parais pour beaucoup de gens assez arrogant. On me l'a dit. Je ne suis pas arrogant, je suis simplement... Je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Ça, c'est des choses claires. Parce que moi, je veux tout. Moi, je veux rencontrer des gens. J'adore les gens. J'adore. J'adore.
Échanger, partager.
Avec l'âge, plus avec n'importe qui. Parce que c'est très épuisant. Je ne peux pas partager avec quelqu'un où je me rencontre 3 jours plus tard que... Mais qu'est-ce que je fais ici? Ça appartient... C'est le luxe de la jeunesse. C'est le luxe de la jeunesse de pouvoir faire ça. Mais je reste naturellement très ouvert à tout ce qui... Parce que ça aussi, on reconnaît la nécessité et la beauté à 1 kilomètre. Alors du coup, on veut toujours aller vers ça encore. Ça peut être dans un enfant, Dans les enfants, c'est très très facile à détecter. Et c'est très reposant, en fait, aussi.
Ce titre-là, il est un peu particulier aussi musicalement.
The bystander.
Oui.
The bystander effect. C'est l'effet. The bystander effect, pour moi, on vit dans une société un peu. On est un peu anesthésié. Il y a tellement de trucs, de tragédies à la télé. Et s'il y a quelque chose que je déteste le plus, c'est les chaînes
d'infos.
Parce qu'eux, ils sont tellement persuadés d'être importants. Tu sais, si quelque chose d'important se passe, on le saura. Mais donc, aussi, Diederik Wissels et moi, on a une histoire ensemble de 30 ans. On a fait une dizaine, douzaine de disques. On est soi-disant connus par la presse pour avoir proposé autre chose dans le paysage vocal, dans le jazz, ce qui est très flatteur. Quand je regarde en arrière, je n'ai pas fait ça avec cette pensée. Et on a des belles mélodies, des belles harmonies. Là, quand on dit Links Whistles dans le jazz, c'est « Oh, il y aura une belle mélodie, une belle balade. » Et là, il y a un truc très, très perturbant. Diederik aime bien acheter des petits synthés et puis expérimenter à la maison. Et puis il les vend, il achète un nouveau synthé. Et une nuit, il m'a envoyé avec des synthés, des sons. Oui, oui. Et moi, j'ai édité là-dedans. J'ai écrit un texte assez perturbant sur ce phénomène d'être anesthésié par rapport à la souffrance de quelqu'un qui peut être à côté de nous. Et donc, j'ai fait tout un voyage. Et puis, il y a le chœur qui arrive. Et finalement, quand j'ai fait le chœur, j'ai dit, ah, on dirait un petit hommage à Queen. Les chœurs que j'ai fait sonnent un peu, c'est un vague réminiscence de Bohemian Rhapsody. Je veux dire, dans la sonorité des voix. Donc je me suis laissé étonner en découpant le morceau. Donc c'est un morceau, c'est en même temps aussi une espèce de hommage au fait de ne pas formater un morceau. Mais en même temps, je trouve que l'énergie est assez électrique.
Oui, on est dans plus
dans, précipitation
vers la musique urbaine, quoi, dans
oui,
cette espèce
fait,
d'urgence
ouais.
de oui, c'est assez David Links.
Anne.
Un grand merci. Est-ce qu'il y a des projets à signaler, des scènes, des... parce que tu es en Italie où tu donnes des cours, aussi, je crois, en Belgique, enfin, dans plein d'endroits.
Oui, je suis professeur conservatoire royal de Bruxelles, c'est un peu comme le CNSM à Paris, que je garde parce que ça me fait travailler ma voix. Je deviens un meilleur chanteur en donnant cours parce qu'il faut leur montrer. Et eux, ils me donnent des coups de pied aussi, de jeunes. Moi, j'adore travailler avec les jeunes. Et c'est aussi la transmission. À certains moments, il faut transmettre, parce que sinon, on ne grandit plus. J'ai vraiment l'honneur d'avoir, en pleine pandémie, d'avoir été engagé comme prof à l'université de jazz à Siena, en Italie.
Oui.
3 jours par mois. Le niveau est tellement... C'est un challenge aussi. J'ai un nouveau disque qui sort en septembre sur le label Enya, magnifique label allemand, où j'écris avec Guillaume de Chassis, pianiste, Matteo Pastorino, clarinettiste, où j'écris des textes sur des morceaux classiques qui n'ont jamais été chantés, parce qu'ils étaient instrumentaux, Ravel, Shostakovich, Rachmaninov, Mompao, Chopin. Et c'est super parce que on improvise aussi.
Donc
il y a ça, et il y a la suite de Skin in the Game que je prépare aussi. Oui, il y a plein de trucs.
Il y a plein de projets.
Mais je suis très heureux de pouvoir faire ça. Quand les choses viennent se présenter à moi, j'ai toujours tendance, oui, faisons. Il y a un projet avec Paolo Fresu et,
magnifique.
Et Gustavo Bettelmann, le pianiste qui était le pianiste de Piazzolla aussi, qui est d'ailleurs sur le disque aussi, Gustavo.
Oui, Bettelmann. Que du beau monde.
Oui, je suis très content. Je suis très content de pouvoir encore faire ça.
Ok, ben un grand merci David, parce qu'il n'y a pas que en écoutant ta musique que l'on s'élève, en t'écoutant parler aussi, je trouve, tu nous sors un peu de tous ces discours aussi qui peuvent être un peu formatés dans certains domaines culturels, pas tous, hein, attention, il y a beaucoup d'artistes qui se battent et qui sont hors format.
Oui, magnifique, il y en a plein. Mais on ne les voit pas assez.
On ne les voit pas assez, c'est toujours le problème.
Et avoir des interviews comme ça, c'est une façon de pouvoir... parler un tout petit peu d'autre chose.
Oui. Alors, en tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir.
Moi aussi, Anne.
Je vous mets les liens pour découvrir l'album Be My Guest de David Links et le lien de sa chaîne YouTube dans le texte qui accompagne ce podcast. Vous pouvez retrouver Sous Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sous Suite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.